Chapitre 56. Quand Louis entra dans la salle d'audience, il la trouva pleine d'une foule compacte. Pas une place n'était restée vide dans cette salle, assez vaste cependant. Le concierge du palais avait mis en réquisition toutes les chaises qu'il avait pu louer ou se faire prêter, et toutes étaient occupées. Louis eut peine à s'ouvrir un passage pour gagner le banc des avocats, où l'on voulut bien lui faire une petite place. Alors il regarda autour de lui. Tout ce qui avait un nom ou une position à Condé et dans la contrée se trouvait là réuni. Derrière le fauteuil du président, le sous-préfet. À droite, M. Fichon, le premier vicaire général, le soutien de l'abbé Guillemite. À gauche, M. de Saint-Is, le deuxième vicaire général, le confident de l'évêque et, par suite, l'adversaire du doyen d'Annebault. Puis, çà et là, pêle-mêle, des visages de connaissance. Pioline, son avoué, auprès de qui il était assis, se pencha à son oreille. « Regardez à votre droite, dit-il, là, ce monsieur à cheveux gris, à la tournure militaire, c'est le capitaine Beaujonnier. »« Il a osé ?»« Je crois qu'il va en entendre de dur. S'il ne change pas de figure, il faudra qu'il ait un front d'airain. » Tout à coup, une petite voix claire et perçante domina le brouhaha des conversations, celle de Maître Espérandieu, l'huissier audiencier. « Le tribunal !» Le public se leva et ce fut un formidable tumulte de chaises qui se choquaient. La porte s'ouvrit. Les juges et le procureur impérial firent leur entrée, graves, recueillis, ayant tous l'impassibilité sur le visage. Sans distribuer un sourire ou un coup de tête, le président s'assit sur son siège. Aussitôt, un profond silence s'établit. Mais, avant la grande pièce pour laquelle on était venu, il fallut subir un lever de rideau qui parut d'une longueur insupportable. Appel des affaires, constitution d'avoués, défaut, toute cette cuisine d'un tribunal à laquelle les profanes ne comprennent absolument rien. Enfin, le président se renversa sur son fauteuil et, regardant longuement l'assistance, « Appelez, dit-il d'une voix forte, l'affaire du testament du marquis de Rudemont pour jugement. » Instantanément, les conversations s'arrêtèrent et tous les yeux se fixèrent sur M. Bonhomme de la Fardouillère qui, ayant pris sa toque posée devant lui, s'était couvert avec une lenteur majestueuse. Cela fait, il ajusta bien ses lunettes sur son nez. Puis, ayant promené un regard circulaire sur l'assistance, comme pour l'avertir d'être attentive à ce qu'elle allait entendre, il prit une feuille de papier et commença à lire lentement, pesant chaque mot, coupant chaque membre de phrase par une pause. Le tribunal. Attendu que le marquis de Rudemont, par un testament holographe, en date du 15 mai 1865, déposé en l'étude de Maître Pénel, notaire à Condé-le-Châtel, a institué pour légataire universel son cousin, M. Louis Méraud, attendu que, par un second testament, en date du 9 août 1867, déposé chez ledit Maître Pénel, M. le marquis de Rudemont, revenant sur sa première disposition, a déclaré révoquer tous les testaments qu'il avait pu faire jusqu'à ce jour, attendu que, par ce deuxième testament du 9 août 1867, M. le marquis de Rudemont institue pour légataire universel le couvent de Sainte-Rutilie à charge d'exécuter différents legs au profit de Clémence Aubriot, femme Beaujonnier, attendu que le sieur Louis Méraud, par exploit de Espérandieu, huissier, a assigné devant le tribunal de Condé-le-Châtel le couvent de Sainte-Rutilie pour voir prononcer la nullité du testament du 9 août 1867 pour cause de captation, que M. Louis Méraud a articulé des faits de captation demandant à être autorisé à en faire la preuve. Les gens qui n'étaient pas au courant de la langue judiciaire se regardaient les uns les autres, se disant qu'au lieu de se presser pour venir entendre tout ce fatras, ils auraient bien mieux fait de déjeuner tranquillement. Est-ce que le président se moquait d'eux? N'aurait-il pas pitié de leur curiosité et de leur impatience? Comme s'il voulait au contraire exaspérer cette curiosité, il avait fait une pause et, de nouveau, il avait promené ses regards sur l'assistance. Bientôt il reprit sa lecture, donnant à sa voix pâteuse plus d'emphase, car le moment décisif était arrivé. Attendu que, par jugement, en date du 17 novembre, le tribunal a ordonné une enquête à laquelle il a été procédé par les soins de M. Ducampat, juge au dit tribunal, que de cette enquête il résulte. Sans s'interrompre, le président se tourna vers le capitaine Beaujonnier. Que depuis 2 ans, la femme Clémence Beaujonnier, qui n'avait primitivement dans le château qu'un emploi subalterne, était arrivée, par des manœuvres habiles et coupables, à s'emparer de l'esprit de son maître, qu'abusant de l'influence illégitime qu'elle avait su acquérir, elle avait préparé ses voies et moyens pour arracher à la faiblesse du marquis de Rudemont des dispositions en sa faveur, que tous les faits de la cause établis par les nombreux témoins entendus dans l'enquête prouvent que des pratiques artificieuses ont été journellement employées par cette femme. Tous les regards avaient quitté le président pour se tourner vers le capitaine. Mais celui-ci, la tête haute, les yeux à 15 pas devant lui, recevait ce feu de curiosité avec autant d'insolence que de dédain. Il avait bien souci des considérants, vraiment. C'était le dispositif qu'il attendait. D'ailleurs, tous les Robins lui inspiraient le plus parfait mépris et il ne s'inquiétait pas de ce que disaient ces gens-là. Quant à Louis, à mesure que ses considérants s'enchaînaient, il prenait de la confiance. La captation était prouvée pour le tribunal. Le président continua. Qu'ainsi, la femme Beaujonnier, voulant dominer le marquis de Rudemont et exercer sur lui une puissance sans partage, avait fait placer au couvent de Sainte-Rutilie la jeune pupille du marquis, Denise Lajolée, pour laquelle, précisément, elle avait été appelée au château de Rudemont, qu'à la date du 15 mai 1865, afin de soustraire le marquis de Rudemont à toutes ses relations, elle l'avait enlevé en Angleterre pour le traîner à sa suite de ville en ville dans des pays étrangers, qu'à son retour, elle avait introduit dans le château des gens qui ne pouvaient être que ses complaisants et ses complices, qu'en même temps, par des moyens détournés, elle était parvenue à provoquer une rupture entre le marquis de Rudemont et ses parents, lesquels étaient en même temps ses héritiers présomptifs, qu'il était notoire que le marquis de Rudemont, dont l'état de santé présentait déjà de graves altérations, avait été provoqué par elle à des excès de table et autres, qui, avec une grande rapidité, l'avaient affaibli intellectuellement et physiquement, que, pendant une courte absence qu'elle avait faite, Louis Mérot, ayant pu pénétrer auprès du marquis, s'était hâté d'appeler en médecin le docteur Gillet, que la femme Beaujonnier, à son retour, avait consigné à la porte du château, qu'elle avait agi de même avec le vénérable M. Marbeuf, qui avait été empêché par elle de remplir les soins pieux de son ministère auprès du marquis de Rudemont, son ancien élève, attendu que, sans qu'il soit besoin de relever certaines scènes scandaleuses connues de tout le pays, il est notoire que la femme Beaujonnier a séquestré le marquis de Rudemont, que pendant la dernière maladie de celui-ci, elle a cherché par des manœuvres coupables à empêcher le notaire de Fromentel d'arriver jusqu'au marquis qu'il avait fait appeler, attendu que, de tous ces faits, il résulte que le marquis, en ce qui touche les dispositions faites en faveur de la femme Beaujonnier, a agi sous une influence à laquelle il lui était impossible de se soustraire et qui peut être considérée comme une violence morale. Le public croyait que la conclusion allait être l'annulation du testament et déjà l'on voyait s'attrister les visages des partisans de l'abbé Guillemite. Mais Louis, loin de partager cette croyance, était plein d'inquiétude depuis quelques minutes. Pas un seul considérant n'avait encore touché le couvent. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il le sut bien vite. Le président, abandonnant Beaujonnier, s'était tourné de son côté et il continuait. Mais, attendu que si le legs particulier fait en faveur de la femme Beaujonnier doit être sévèrement apprécié, il n'en doit pas être de même des autres dispositions, et notamment du legs universel fait au profit du couvent de Sainte-Rutilie, que cette disposition, loin d'indiquer une faiblesse d'esprit chez le marquis de Rudemont, n'est au contraire que l'expression des sentiments de piété qui ont été toujours les siens pendant toute sa vie, qu'en instituant le couvent de Sainte-Rutilie, il a agi en pleine connaissance de cause et en se conformant aux inspirations de sa conscience, que rien n'établit qu'aucun membre de cette communauté ait fait auprès de lui aucune démarche pour obtenir un avantage quelconque dans son testament, que M. le marquis de Rudemont a toujours manifesté dans sa carrière son ferme attachement à notre sainte religion, en même temps que des sentiments de pieuse générosité, qu'il est donc tout naturel que, près de paraître devant Dieu, il ait voulu faire un legs universel en faveur d'une institution religieuse, qu'un legs universel n'est pas seulement un acte de générosité, mais que ce peut être encore un mandat donné par celui qui va quitter la terre de le remplacer et de le continuer, que cette pensée paraît avoir été celle de M. le marquis de Rudemont, qui, fidèle aux traditions de sa race, a voulu par cette disposition attester ses croyances qui sont celles de tous les cœurs chrétiens et français. En entendant cette phrase entortillée, les avocats et les avoués se regardèrent en souriant. Évidemment, ce considérant n'appartenait plus à la rédaction de Legrain, mais à celle du président, qui, lui aussi, avait voulu profiter de cette occasion pour attester publiquement sa foi. Mais on n'eut pas le temps de faire des commentaires. Le président, après avoir pris une longue pause pour bien marquer cette manifestation, avait repris sa lecture. Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions du demandeur tendant à la nullité du testament du 9 août 1867 pour cause de captation, maintient ce testament fait au profit du couvent de Sainte-Rutilie comme bon et valable, déboute Louis Méraud de sa demande et le condamne aux dépens. Au milieu du brouhaha qui s'éleva aussitôt que le président eut cessé de lire son jugement, Louis eut la plus grande peine à sortir de l'audience et à échapper au témoignage d'amitié et de sympathie qu'on voulait lui donner. Comment porter ce coup à sa mère? Mais en arrivant, il vit qu'elle avait été déjà avertie par un clerc de Pioline qui avait pu sortir et courir plus vite que lui. « Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? » s'écria Madame Méraud, qui s'était renversée dans son fauteuil. « Cela est cependant. » Pendant que Madame Méraud se lamentait en poussant des exclamations de douleur et de colère, il attira Denise dans l'embrasure de la fenêtre. « Voulez-vous que nous fixions notre mariage ? » dit-il. « Les lenteurs de la paix nous entraîneraient trop loin. Pardonnez-moi d'avoir attendu jusqu'à ce jour. Je voulais vous rendre cette fortune qui vous appartient, ce château, ces bois où nous avons été si heureux. » « Ces bois ne vont pas être enclos, n'est-ce pas ? » « Je ne pense pas. » « Eh bien, alors nous pourrons encore faire le tour du parc, ils seront à nous par les yeux et nous y retrouverons nos souvenirs. » Et lui prenant la main, elle la lui serra tendrement.